Voltaire, lettre 22, sur la considération qu'on doit aux gens de lettres. Ni en Angleterre, ni en aucun autre pays du monde, on ne trouve des établissements en faveur des beaux-arts comme en France. Il y a presque partout des universités, mais c'est en France seulement qu'on trouve ces utiles encouragements pour l'astronomie, pour toutes les parties des mathématiques, pour celles de la médecine, pour les recherches de l'Antiquité, pour la peinture, la sculpture et l'architecture. Louis XIV s'est immortalisé par toutes ses fondations et cette immortalité ne lui a pas coûté 200 000 francs par an. J'avoue que c'est un de mes étonnements que le Parlement d'Angleterre, qui s'est avisé de promettre 20 000 guinées à celui qui ferait l'impossible découverte des longitudes, n'ait jamais pensé à imiter Louis XIV dans sa magnificence envers les arts. Le mérite trouve à la vérité en Angleterre d'autres récompenses plus honorables pour la nation. Tel est le respect que ce peuple a pour les talents, qu'un homme de mérite y fait toujours fortune. Monsieur Addison, en France, eût été de quelque académie et aurait pu obtenir, par le crédit de quelques femmes, une pension de 1 200 livres, ou plutôt on lui aurait fait des affaires sous prétexte qu'on aurait aperçu dans sa tragédie de Caton quelques traits contre les portiers d'un homme en place. En Angleterre, il a été secrétaire d'État. Monsieur Newton était intendant des monnaies du royaume. Monsieur Congreve avait une charge importante. Monsieur Prior a été plénipotentiaire. Le docteur Swift est doyen d'Irlande et y est beaucoup plus considéré que le primat. Si la religion de Monsieur Pope ne lui permet pas d'avoir une place, elle n'empêche pas au moins que sa traduction d'Homère ne lui ait valu 200 000 francs. J'ai vu longtemps en France l'auteur de Radamiste près de mourir de faim, et le fils d'un des plus grands hommes que la France ait eu et qui commençait à marcher sur les traces de son père était réduit à la misère sans M. Fagon. Ce qui encourage le plus les arts en Angleterre, c'est la considération où ils sont. Le portrait du Premier ministre se trouve sur la cheminée de son cabinet, mais j'ai vu celui de M. Pope dans 20 maisons. M. Newton était honoré de son vivant et l'a été après sa mort, comme il devait l'être. Les principaux de la nation se sont disputés l'honneur de porter le poêle à son convoi. Entrez à Westminster. Ce ne sont pas les tombeaux des rois qu'on y admire. Ce sont les monuments que la reconnaissance de la nation a érigés aux plus grands hommes qui ont contribué à sa gloire. Vous y voyez leurs statues comme on voyait dans Athènes celles des Sophocle et des Platon. Et je suis persuadé que la seule vue de ces glorieux monuments a excité plus d'un esprit et a formé plus d'un grand homme. On a même reproché aux Anglais d'avoir été trop loin dans les honneurs qu'ils rendent au simple mérite. On a trouvé à redire qu'ils aient enterré dans Westminster la célèbre comédienne Mademoiselle Oldfield, à peu près avec les mêmes honneurs qu'on a rendus à M. Newton. Quelques-uns ont prétendu qu'ils avaient affecté d'honorer à ce point la mémoire de cette actrice afin de nous faire sentir davantage la barbare et lâche injustice qu'ils nous reprochent d'avoir jeté à la voirie le corps de Mademoiselle le Couvreur. Mais je puis vous assurer que les Anglais, dans la pompe funèbre de Mademoiselle Oldfield, enterrée dans leur Saint-Denis, n'ont rien consulté que leur goût. Ils sont bien loin d'attacher l'infamie à l'art des Sophocles et des Euripides et de retrancher du corps de leurs citoyens ceux qui se dévouent à réciter devant eux des ouvrages dont leur nation se glorifie. Du temps de Charles Ier, et dans le commencement de ces guerres civiles commencées par des rigoristes fanatiques qui, eux-mêmes, en furent enfin les victimes, on écrivait beaucoup contre les spectacles, d'autant plus que Charles Ier et sa femme fille de notre Henri le Grand, les aimait extrêmement. Un docteur, nommé Prine, scrupuleux à toute outrance, qui se serait cru damné s'il avait porté une soutane au lieu d'un manteau court et qui aurait voulu que la moitié des hommes eût massacré l'autre pour la gloire de Dieu et la propagande d'affilée, s'avisa d'écrire un fort mauvais livre contre d'assez bonnes comédies qu'on jouait tous les jours, très innocemment, devant le roi et la reine. Il cita l'autorité des rabbins et quelques passages de saint Bonaventure pour prouver que l'Œdipe de Sophocle était l'ouvrage du malin, que Terence était excommunié ipso facto, et il ajouta que sans doute Brutus, qui était un janséniste très sévère, n'avait assassiné César que parce que César, qui était grand prêtre, avait composé une tragédie d'Œdipe. Enfin, il dit que tous ceux qui assistaient à un spectacle étaient des excommuniés qui reniaient leur crème et leur baptême. C'était outrager le roi et toute la famille royale. Les Anglais respectaient alors Charles Ier. Ils ne voulurent pas souffrir qu'on parlât d'excommunier ce même prince, à qui ils firent depuis couper la tête. Monsieur Prine fut cité devant la chambre étoilée, condamné à voir son beau livre brûlé par la main du bourreau, et lui à avoir les oreilles coupées. Son procès se voit dans les actes publics. On se garde bien, en Italie, de flétrir l'opéra et d'excommunier le signor Senesino ou la signora Cuzzini. Pour moi, j'oserais souhaiter qu'on pût supprimer en France je ne sais quel mauvais livre qu'on a imprimé contre nos spectacles. Car lorsque les Italiens et les Anglais apprennent que nous flétrissons de la plus grande infamie un art dans lequel nous excellons, que l'on condamne comme impie un spectacle représenté chez les religieux et dans les couvents, qu'on déshonore les jeux où Louis XIV et Louis XV ont été acteurs, qu'on déclare œuvre du démon des pièces revues par les magistrats les plus sévères et représentées devant une reine vertueuse, quand, dis-je, les étrangers apprennent cette insolence, ce manque de respect à l'autorité royale, cette barbarie gothique, qu'on ose nommer ces vérités chrétiennes, que voulez-vous qu'ils pensent de notre nation? Et comment peuvent-ils concevoir ou que nos lois autorisent un art déclaré si infâme ou qu'on ose marquer de tant d'infamie un art autorisé par les lois, récompensé par les souverains, cultivé par les grands hommes et admiré des nations? Et qu'on trouve chez le même libraire la déclaration du père Lebrun contre nos spectacles, à côté des ouvrages immortels, des Racines, des Corneilles, des Molières, etc.